Good job. Good job, le podcast pour s'épanouir au travail.
Vous en avez forcément déjà croisé au cours de votre carrière. De vrais leaders, des hommes et des femmes à l'énergie contagieuse, des personnalités qui ont souvent des parcours inspirants. Si nous avons tous en tête des rôles modèles que l'on admire, le leadership est aussi en pleine mutation. Écoutez l'éclairage de la chef d'entreprise multicasquette Emmanuelle Duez, fondatrice du cabinet de conseil et observatoire The Boson Project, de l'association Youth Forever et de la start-up EdTech Bugali. Cette trentenaire incarne à elle seule un leadership inspirant, loin des sentiers battus. Bonjour Emmanuelle.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va bien.
Qu'est-ce qui caractérise selon vous un vrai leader?
Du courage, aujourd'hui. Puisque dans un contexte de permacrise, pour paraphraser Christopher Guérin, qui est le patron de Nexens et qui vient de sortir un très bon livre pour aller dans le bon sens, on a plus que jamais besoin de dirigeants qui sont courageux, c'est-à-dire qui savent s'entourer de gens qui sont plus forts qu'eux, qui savent convoquer leurs convictions pour façonner le futur des boîtes et le futur de l'économie, qui savent renoncer aussi. Et je suis pas certaine que le courage soit le principal soft skills qu'on ait injecté dans les matrices de leadership des entreprises.
Qu'est-ce qui différencie selon vous un manager, un chef d'un leader?
Alors je sais qu'en ce moment il y a tout un débat sur le fait qu'il faut surtout pas mélanger les deux. Je pense que la sémantique a pas trop d'importance en la matière. Disons qu'il y a deux rôles qui sont quand même très différents. Le premier, c'est quelqu'un qui encadre au quotidien des hommes et des femmes, et donc qui va les aider à grandir, qui va faire du feedback, qui va se mettre au service aussi pour pouvoir accompagner la réalisation d'un bel ouvrage, qui va créer les conditions du collectif. Et ça, c'est quand même un manager de proximité qui est une fonction essentielle. Le leader ou le dirigeant, il a quand même une responsabilité un peu différente. On ne peut pas demander à des dirigeants d'accompagner l'engagement d'un point de vue qualitatif de chacun des membres d'une équipe, notamment sur des PME, des ETI ou des grands groupes. Le dirigeant, sa mission à lui, c'est dans une époque contrariée et trouble, pas simplement de piloter des grosses structures, mais d'accompagner la transformation très profonde que sont en train de traverser les entreprises, à la fois du business model, du modèle social, donc la fabrique engagement dans un contexte d'érosion de l'engagement, d'érosion du collectif, et le tout, en fait, dans une approche qui doit s'inscrire dans les limites de la planète. C'est ce qu'on appelle, ce nouveau framework, les 3P, People, Planet, Profits, qui sont désormais la toile de fond de l'action de la plupart des dirigeants. Donc voyez bien que c'est deux fonctions, rôles et responsabilités qui n'ont juste rien à voir. Donc je trouve que le débat qui consiste à dire « oui, mais les leaders ne sont pas des managers », c'est pas du tout le sujet. Quiconque a déjà été dans une entreprise en 2023, sait absolument que les deux missions sont fondamentales, mais qu'elles ne se recouvrent pas du tout.
Quand on parle de leadership, comment ça s'incarne selon vous au quotidien en termes de posture, de comportement, d'attitude ?
On a fait des études chez les Bosons, on en fait depuis 10 ans et on en a fait beaucoup sur le leadership. Et ce qu'on voit émerger ces dernières années, très renforcé par la pandémie, c'est trois attributs du leadership qui sont consubstantiels à la capacité de relever les défis de l'époque, qui sont très importants. Le courage, j'en ai parlé, la propension à la stratégie. Ça veut dire identifier sur le spectre de décision les choses les plus conformes jusqu'aux choses les plus inconformes, non conformes, on dit chez les militaires. Typiquement, planifier une pandémie qui arrêterait l'économie d'un point de vue mondial et entraîner les organisations à réagir à ça. Mais également dans cette propension stratégique, il y a la capacité à penser le très court terme et l'agilité d'une organisation en même temps que le très long terme, là où justement on va convoquer les convictions qui sont la colonne vertébrale de valeur des dirigeants et qui font un peu la base du courage qu'on lui demande d'avoir aujourd'hui dans une époque complexe Ou la vérité, on ne sait pas très bien où elle est. Ou ce qu'il faut faire pour le business, on ne sait pas très bien où il est non plus. Et ce n'est sûrement pas des consultants qui vont nous le dire. Donc il faut que le dirigeant aille chercher dans ses tripes ce en quoi il croit pour le monde de demain. Mais aussi, il faut qu'il sache, avec cette dimension stratégique, s'entourer de gens qui sont plus forts que lui, qui vont apporter une pluridisciplinarité et qui vont permettre d'avoir le cadre de jeu le plus défini possible pour pouvoir choisir. Et puis la troisième dimension, c'est une propension à la joie. Aujourd'hui, vous avez 56% des moins de 25 ans dans plus de 10 pays, dont le Brésil ou l'Inde, qui considèrent que l'humanité est condamnée. Et donc c'est toute une génération de citoyens, d'enfants, ou de très jeunes adultes, de travailleurs, pour lesquels le moyen terme n'existe pas. Donc à très court terme, je vais m'engager, je vais faire quelque chose parce qu'il faut bien manger. À très long terme, je me projette en me disant que le GIEC ou simplement la société qui est en train de se façonner sous mes yeux, elle n'est pas pour moi. Entre les deux, il n'y a rien. Et ça, en fait, c'est un chiffre pour en réalité être un symptôme d'une réalité plus globale où vous avez beaucoup de travailleurs et des citoyens qui sont inquiets ou qui sont contrariés ou en incapacité de saisir cette complexité qui est désormais la toile de fond du monde de l'entreprise. Dans ce contexte-là, on ne peut pas engager sans plaisir, on ne peut pas engager sans collectif, on ne peut pas engager sans avoir un ancrage dans le quotidien, dans la réalité, dans l'instant. Et je crois que ça, c'est une responsabilité du dirigeant, dont on n'a jamais parlé jusqu'à présent. Parce qu'on se disait que c'était le sujet du DRH, ou du manager de proximité, ou du chief happiness officer. Je pense qu'aujourd'hui, dans les boîtes, celui qui doit donner des raisons d'y croire, et ensuite, le pouvoir de s'engager, de faire bouger les lignes, c'est le dirigeant. Mais si on ne donne pas des raisons d'y croire, on n'aura plus d'engagement de qualité, parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui bloque, qui freine l'engagement citoyen et corporate.
Vous avez fait aussi beaucoup d'enquêtes chez les jeunes. Est-ce qu'il y a aussi une question d'âge en termes de leadership ou pas du tout ?
Moi, je suis assez conservatrice sur ce genre de sujet. Et je pense que, bien sûr, qu'on peut être un jeune leader, et on en connaît tous, hein, une Greta a favorisé l'éveil des consciences au niveau mondial sur les sujets environnementaux. Donc, elle a un leadership certain. Pour autant, je pense que l'exercice de l'autorité, du pouvoir et des responsabilités se façonne avec le temps. Et se façonne aussi avec une compréhension plus affûtée du champ de contraintes dans lequel on évolue, de l'imbrication de tous les enjeux, de la nuance aussi nécessaire, de l'art du compromis parfois, pour embarquer des générations, des regards sur le monde qui sont très très différents. Et ça, en fait, je crois quand même que ça grandit avec le temps. Alors vous avez des gens qui, très tôt, vont en avoir ces dispositions, mais c'est jamais gratuit. C'est-à-dire que s'ils en ont les dispositions, c'est parce que la vie les a fait vieillir plus rapidement. Donc voilà, je crois qu'il y a toujours une notion de temporalité pour réussir à faire émerger des hommes et des femmes d'exception, au sens où ils vont exceptionnellement exercer des rôles et des missions d'autorité, de responsabilité, qui peuvent avoir un impact sur la vie des autres.
Je vais vous faire écouter un extrait d'une interview de Michelle Obama réalisée par Leila Slimani pour Brut. Elle nous parle de vulnérabilité, d'authenticité et d'imperfection.
I wanted to know, do you feel that empowerment is also about sharing our fears and sharing about our weaknesses, freeing ourselves from this desire of perfection that drives us?
Absolutely. I think that that is the hallmark of authenticity and vulnerability, particularly as we're talking to young people, people who are looking to us. Sometimes it's easy to feel like you're, as a role model, your job is to have all the answers, to show no weaknesses. But I think that that just sets an impossible bar for those looking up to you to reach, when in fact it isn't true. We all struggle with fear. We all go through bouts of depression. We all of us, wonder whether we're good enough, whether we're prepared for the positions that we're in. I know for me, admitting it is a source code to my power. It's, you know, being able to point out my differentness and to own it and to rewrite a story of why those differences, that differentness has made me who I am, rather than trying to hide that or carry around a mask of pretending that I'm perfect when perfection is never the goal.
Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Je ne peux pas dire que je ne suis pas d'accord avec Michel quand même, ça serait un peu abusé. Non, ce que ça m'inspire, c'est une réflexion, si je me place en observateur des transformations du monde du leadership, hein, puisque notre métier chez les Bosons, c'est la sociologie des organisations. Donc en fait, on regarde les choses se faire, se défaire, les tendances faibles devenir des tendances lourdes. Et c'est vrai qu'on a observé sur les 10 dernières années la naissance de dirigeants qui sont beaucoup plus à l'aise avec leurs émotions, avec leur vulnérabilité, avec qui ils sont pour de vrai. Et c'est vrai aussi que ça correspond beaucoup plus à ce qu'attend la jeune génération qui a besoin pour pouvoir se projeter un minimum de s'identifier et qui n'est naïve de rien et qui n'est dupe de rien. C'est-à-dire que les super-héros, ça n'a jamais existé et ça n'existera pas demain non plus. Donc en fait, je pense qu'il n'y a jamais eu ce mythe. On a toujours su que c'était un artifice dont les leaders se protégeaient. Aujourd'hui, on est dans une époque où les gens sont surinformés et le fait de porter un masque est plutôt mal vu. Et nous, on l'a constaté, c'est-à-dire qu'on a vu des dirigeants qui avaient l'audace de prendre la parole devant leurs équipes pour exprimer parfois des fragilités, des doutes, en tout cas des émotions personnelles. Pour autant, je ne crois pas, pour faire un petit contraste avec ce que partage Michelle Obama, que le leadership se façonne dans la fragilité. Je pense que y a un sujet d'assumer parfaitement ses limites, ses doutes, sa vulnérabilité et sa singularité. Ça, c'est sûr, c'est le leader qui dit « je » pleinement et qui ne joue pas un rôle. Mais je crois quand même qu'on est dans un contexte où on a besoin d'hommes et de femmes qui tiennent le cap. Et donc, on a besoin d'un équilibre entre cette authenticité qui peut passer par la vulnérabilité et une forme de force. Et cette force-là, en fait, on va aller la puiser chez les dirigeants dans les éléments que j'ai partagés tout à l'heure, c'est-à-dire le courage de ses convictions. Ça veut dire la capacité à se forger une vision du monde et à la défendre. Et à embarquer des hommes et des femmes, et à raconter des histoires dans lesquelles les hommes et les femmes vont adhérer. Et ça, il faut une force immense pour le faire. Il faut de la confiance en soi, il faut de la culture, il faut de l'ouverture, il faut de l'intelligence. L'intelligence d'être entouré de ces hommes et des femmes qui vont vous donner finalement les ferments de votre propre représentation, de votre vision et donc du cap qu'on va mettre en place dans une organisation. Et puis, il faut aussi une forme de légèreté, donc c'est mon sujet de joie, de fantaisie. Il faut aussi toujours avoir conscience, et c'est aussi un élément de force, qu'en fait, quand on est dirigeant d'une entreprise, on n'est pas, on fait pas des opérations à cœur ouvert. Donc on doit savoir aussi avoir le recul de l'instant et de dire, écoutez les gars, en fait, on est déjà super content d'être ensemble, on réalise des trucs de dingue, et en fait cette énergie du collectif, cette énergie du quotidien, je vais réussir à en faire une espèce de boule magique que je vais vous balancer. Et ça, en fait, ça nécessite de la force. Donc bien sûr que le leadership a un lien avec la force.
Et est-ce que justement l'armée est pour vous une référence en matière de leadership ?
Magnifique transition. Oui, alors l'armée, la marine en particulier, puisque c'est l'univers que je connais bien mieux. En fait, la marine m'a appris beaucoup de choses sur la fabrique du leadership. Peut-on, et si oui, comment créer des chefs ? Pour vous donner un exemple, hein, un commandant du Charles de Gaulle, qui est quand même un objet économique, technologique, politique, industriel, militaire, hors du commun. Hors du commun. Et un objet RH, hors du commun. Sur 27 ans de carrière, il y a quasiment 10 ans de formation à taux plein. 10 ans de formation pour faire un homme en capacité de piloter avec humilité et avec force un truc aussi complexe que le Charles. Donc ça nous donne quand même des éléments. Puis il y a d'autres éléments que je trouve extrêmement inspirants dans la marine nationale. C'est une marine d'experts. C'est une marine au sein de laquelle chaque marin compte. Donc on considère que il y a une forme d'interdépendance de la chaîne dont la force serait le maillon le plus faible. Donc on doit faire attention à chaque marin et notamment au plus faible parce que ça ébranle l'intégralité du système. Il y a également cette notion de subsidiarité qui est très forte et qui est très méconnue, où en fait, dans la marine, vous avez une sorte de double chaîne hiérarchique, une chaîne hiérarchique descendante, plutôt en temps de paix, en temps d'entraînement finalement, le temps courant, et puis vous avez une chaîne hiérarchique remontante quand on est en opération. On a coutume de dire sur les bateaux, par exemple, que la fonction prime sur le grade et qu'à un moment, si c'est vous qui pouvez faire la différence, peu importe votre âge et peu importe le nombre de galons que vous avez sur les épaules, vous devez le faire. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est très inspirant pour le monde de l'entreprise parce que je pense que des modèles managériaux, organisationnels, culturels, reposant sur la subsidiarité, c'est la seule religion dans laquelle je crois pour créer des entreprises qui sont durablement performantes. La seule. Le reste, les dogmes organisationnels un peu à la mode, ça a toujours des énormes limites. La subsidiarité, c'est ancestral, c'est presque du bon sens, même si c'est très complexe à mettre en place, notamment dans des grandes organisations ou dans des entreprises industrielles. Mais je crois qu'en fait, il n'y a que ça de vrai. Ça rend le travail émancipateur, ça permet aux hommes et aux femmes de faire un travail qui a du sens, parce qu'en fait, ils peuvent prendre la scène, ils peuvent écrire leur partition, qu'ils soient sur une chaîne de prod ou qu'ils soient dans une tour à Hong Kong. Et à la fin du jour, quand même, cette capacité à prendre la scène de son propre travail, c'est ce qui fait l'épaisseur de son travail, donc l'épaisseur de son engagement, le sens qu'on ramène chez soi.
C'est une des clés justement pour réussir à embarquer ses équipes quand on est leader.
Bah, je pense qu'une des clés, c'est en effet de permettre plus que transmettre. Plus qu'une clé, je pense que c'est un changement de paradigme majeur. Parce que c'est pas du tout comme ça qu'on a fait émerger des dirigeants dans les entreprises françaises. Et là, c'est un point de bascule total. C'est un point de bascule total. Parce qu'en fait, on va avoir des dirigeants qui sont issus donc, de la fabrique du monde d'hier, à qui on demande avec beaucoup de gentillesse et beaucoup d'éléments scientifiques, pragmatiques, il va falloir demain que votre mission consiste à faire pousser des herbes qui ne sont pas la même que la vôtre, en fait. À créer un jardin avec plein de plantes exotiques pour qu'on teste des choses hyper différentes et idéalement, d'ailleurs, à permettre la pousse de plantes bien plus jeunes que vous. Donc finalement, à casser le modèle dont vous êtes issu, pour permettre de manière volontaire l'émergence d'autres modèles au pluriel. Ça, c'est une rupture dans la fabrique à autorité qu'on connaît en France.
Vous parliez justement du monde d'hier. On va essayer de s'intéresser un petit peu au leadership de demain. Je vais vous lire un extrait d'un livre qui s'appelle Le temps des leaders pop de Marion Dariotor et vous allez me dire justement votre vision à vous du leadership de demain. Être un leader pop, à la différence d'être un leader à l'ancienne, c'est cultiver une forme d'humilité, c'est préférer l'intuition à la démonstration et au chiffrage de tout. Être un leader pop, c'est aussi être rapide dans ce que la rapidité permet de transformer l'intuition en projet d'entreprise et de cultiver ce qui sied à tous les meneurs. L'envie de gagner. L'envie de gagner non pas au sens de performance, mais plutôt de créer toujours, de se surpasser en permanence. Être un leader pop, c'est aussi et enfin peut-être accepter une forme de spiritualité. Pour mieux se connaître et mieux accueillir les autres, le leader pop, tel un meneur, embarque avec lui, non pas grâce à l'autorité verticale, mais grâce à une attitude, une appétence pour la créativité, à une approche de l'utilité des activités, à une approche des autres, et aussi grâce à un projet qui dépasse le simple fait de faire tourner l'entreprise. Au rugby, au foot et même au handball, le demi d'ouverture, le numéro 10 ou le demi-centre sont des meneurs de jeu, c'est-à-dire qu'ils sont dépositaires de la stratégie globale de jeu et doivent l'insuffler et la distribuer, mais ils ne peuvent pas le faire seuls. Ils ont besoin de s'appuyer sur les autres et surtout d'accepter qu'ils ne sont pas Shiva. Ce que pensent encore pourtant aujourd'hui beaucoup de leaders. Et si on changeait? Et si nous profitions de la transformation en profondeur des entreprises, induite et rendue cruciale par l'avènement de l'idée de raison d'être, d'entreprise à mission et des préoccupations environnementales pour modifier notre façon de mener les choses en tant que dirigeants?
Pour rebondir sur l'extrait, la dimension que je trouve très intéressante et très juste, c'est celle de la spiritualité. Et ça, c'est des discussions... très off, en fait, qu'on a avec des dirigeants de tous les mondes. Hein. Il n'y a pas très longtemps, j'avais un échange surprenant avec un dirigeant du monde catholique qui manage, en fait, une énorme équipe de prêtres. Et en fait, il se posait la question de la source, en fait. C'est quoi la source la source de l'art de diriger, de l'art de convaincre, la source... d'une certaine manière, de la foi dans un monde incertain. Parce que c'est ça aussi la difficulté aujourd'hui, c'est que l'incertitude, elle est partout. Hein. On parlait d'un monde VUCA, maintenant on parle d'un monde banni, donc fragile, anxiogène, non linéaire et incompréhensible. Et c'est des acronymes qui reflètent bien l'art de diriger. Et cette question de la source, en fait, je trouve qu'elle est très intéressante. Parce que finalement, dit autrement, c'est où est-ce qu'on va trouver l'inspiration et la force de projeter une vision dans un monde chaotique. Et en effet, il y a des dirigeants qui vont trouver dans une forme de spiritualité intérieure, mais aussi tournée vers les autres, la réponse à ces questions.
Est-ce qu'il y a un leadership au féminin, selon vous ?
Attention, ça c'est une question minée. Je pense que oui. Au risque de m'attirer les foudres de beaucoup d'hommes et de femmes, je pense que oui. En fait, je vais même être encore plus provocante. Je ne pense pas que les femmes soient dépositaires d'un leadership fondamentalement différent des hommes. Et malheureusement, on a vu à la tête des boîtes des femmes qui étaient d'aussi mauvais leaders, aussi brutales, aussi rudes que d'autres hommes. Donc... en matière de leadership, les hommes et les femmes sont parfaitement égaux. Par contre, ce que je peux partager, qui est une conviction strictement personnelle, c'est que je pense que quand on est un parent et quand on est une maman, on regarde sa responsabilité de manière un peu différente. Et il commence à y avoir beaucoup de littérature sur le sujet que je trouve très intéressante pour les dirigeants. Là, vous avez un livre qui est sorti, je ne me souviens plus exactement le titre, d'un des journalistes du Monde, justement sur l'enfance. Vous avez un autre patron d'hôpital qui a écrit un petit pamphlet philosophique sur l'enfance et la responsabilité. Et globalement, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent que le jour où vous donnez naissance à un enfant, vous vous décentrez et vous regardez le temps de manière différente. Et moi, je l'ai vécu dans ma chair. Je crois pas que ça soit l'apanage des mères, mais je pense que c'est très fort pour les femmes. Et c'est une forme d'évidence instantanée. Au moment où l'enfant est là, en fait, on n'est plus au centre de sa propre existence. Et je trouve que ça préfigure ensuite un exercice de l'autorité un peu différent.
Justement, si on va un petit peu dans le futur, en 2050, à votre avis, la question du leadership, elle sera comment ? À quoi ressembleront les leaders de demain ?
Bah, je pense qu'en 2050, ça sera peut-être des procès générationnels des dirigeants politiques, économiques et sociétaux, intellectuels également. Il ne faut pas oublier, hein, la fabrique de la pensée, elle est fondamentale. Mais en 2050, les jeux seront faits. Et donc, il sera temps de se poser la question de est-ce que, d'un point de vue générationnel et civilisationnel, on a su être à la hauteur de notre responsabilité, des enjeux et de ce que l'on doit aux générations à venir. Donc je ne sais pas répondre à la question de comment seront les leaders en 2050, mais ce qui est sûr, c'est que les enfants de 2050 regarderont et auront le droit de juger les actes et les non-actes des 50 années auparavant, évidemment. Et donc, ça pose la question du leadership d'aujourd'hui. Ça pose finalement la double question, celle qu'on a beaucoup évoquée ensemble de la transformation du leader d'aujourd'hui, de ceux qui sont en poste à responsabilité, mais ça pose aussi la question qu'on n'a pas évoquée, de la capacité à s'engager pour bâtir le monde de demain des jeunes générations qui sont dans un désengagement global. Il y a une étude récente là, qui parlait du fait que vous avez seulement 10% des moins de 25 ans qui considèrent qu'une vie faite d'engagement est une vie réussie. Et parmi eux, 7% considèrent que l'engagement politique a de la valeur. Mais ça, c'est pas possible. Parce qu'en fait, sans engagement politique et sans engagement économique de la jeune génération dont on parle, on n'aura pas de transformation globale. Donc on a besoin aussi de bâtisseurs du monde de demain, pas simplement de procès des leaders du monde d'hier et du monde d'aujourd'hui, mais aussi de fabriquer cette relève. Et donc il faut que cette jeunesse indignée, révoltée, à raison, déserteur aussi, à un moment donné, elle se dise « Ok, on va bâtir ». Et on ne va pas attendre d'avoir l'autorisation.
La tradition de ce podcast, pour terminer, c'est que chaque invité pose une question à mon invité suivant. Donc vous allez entendre la question de Claude Dartois, qui est un ancien candidat de Koh-Lanta, qui est venu parler de dépassement de soi. Et donc il a une question pour vous.
Quel serait pour toi, dans le domaine du sport, l'archétype du dépassement de soi ?
J'ai un exemple un peu intéressé. Ce qu'on accompagne en ce moment avec The Boson Project, une réflexion sur la course au large. Qui voudrait, en tout cas beaucoup de skippers et beaucoup de parties prenantes de cet univers-là, qui est un tout petit univers, un très clos, voudrait être une des premières fédérations, un des premiers sports à promouvoir une autre définition de la performance. Et du coup, là, j'ai bien envie de parler de François Gabart, parce que je trouve qu'aujourd'hui, des hommes et des femmes qui sont des sportifs de très haut niveau sur des sports individuels, on est tous des numéros 9 quand on fait des sports individuels. Hein. On est celui qui marque. Mais qui ose un moment finalement renoncer. Et renoncer d'abord et avant tout à leur épopée personnelle. Pour promouvoir quelque chose de plus beau et de plus grand. Ça, je trouve ça très courageux. Donc, ça serait ça. Ça serait ça ma réponse à la question.
Et vous, quelle serait votre question sur le thème du leadership pour mon prochain invité ?
Est-ce qu'on sait aujourd'hui, dans l'état de l'art scientifique ou même dans des réflexions plus philosophiques, quelle est la part de l'inné et de l'acquis dans la construction de cette capacité à un moment donné à jouer un rôle d'autorité pour le collectif ? Plus que de leadership, parce que je trouve que le terme est galvaudé, on est tous leaders de quelque chose, voilà. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez pourquoi le camembert président s'appelle président, parce que justement, il y a des présidents de tout en France et que tout le monde est président de quelque chose. C'est un peu la même chose sur le leadership. Donc voilà, est-ce qu'on a découvert ou est-ce qu'on sait ou est-ce qu'on peut construire une réflexion, question difficile, hein, sur le fait qu'on porterait en soi quelque chose dans cette capacité à exercer l'autorité et l'envie de le faire, qui serait donc une forme d'inné par rapport à l'acquis qu'on recevrait dans l'éducation et de la part de la société.
Ça promet de beaux échanges. Merci beaucoup, Emmanuel.
Avec plaisir.
Bonne journée, à bientôt.
À bientôt.
Good job. Good job, le podcast pour s'épanouir au travail.